Bonjour chers amis, bonjour Steven, bonjour Estelle. Merci beaucoup. Pour ce beau cœur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bonjour mes amis. Avant de commencer le message, je vous signale que Marie-Hélène, Bénédicte et moi, ainsi qu'Abdou, Abderrahman Aboubakar et Aminata partiront en voiture le premier. Voilà. Nous partirons le premier au matin de Gomery vers l'Institut biblique, puis direction Orléans. Nous descendrons à Amboise, pour aller dans un petit village de Meslan, chez des amis chrétiens, Daniel et Regula Scott. Et nous déposons la Bénédicte, nous dormons la nuit et nous repartons, nous déposons Marie-Hélène. Et nous repartons sans Marie-Hélène. Nous la laissons 10 jours là. Et Bénédicte, Abdou et Aminata et moi, nous partons vers Limoges. Nous arrivons le 2 dans l'après-midi et nous arriverons, si possible, pour rencontrer les chrétiens, évidemment, pour fraterniser, pour profondément, sérieusement, en Christ. Et nous serons à l'église le dimanche, ainsi qu'après-midi, pour la réunion fraternelle où Bénédicte présentera son travail de l'école, etc., de ses deux sœurs et moi-même le travail, et puis l'école au Pakistan. Abdou et Aminata présenteront leur engagement aussi, depuis de si longues années au service du Seigneur dans un milieu difficile où ils sont nés, à Niamey, au Niger. Voilà, nous repartirons le 4 fin de matinée et nous irons à La Rhôde. Nous tomberons en plein milieu d'une retraite pastorale pour des chrétiens et nous participerons à la deuxième moitié de la retraite. Ensuite, nous participerons à la convention de l'ABF du 7 au 9, Alliance biblique baptiste de France. Et ensuite, le 9, nous repartons en principe vers Meslan, mais peut-être vers Angers. Si j'ai des nouvelles des chrétiens de Angers et qu'ils me disent que nous sommes les bienvenus, nous passerions, nous arriverions le 9 juillet au soir jusqu'au 12. Voilà, c'est à l'église à nous faire signe. Évidemment, c'est pour présenter, bien sûr, Bénédicte, son travail de missionnaire, ainsi que ses deux sœurs, et l'œuvre au Pakistan. Abdou et Aminata n'étant pas avec nous à Angers, étant repartis avec quelqu'un d'autre vers le Luxembourg, ils ont des rendez-vous. Ensuite, le 12, fin de journée, au soir, nous arrivons à Meslan, c'est environ 150 km de Angers, tout près d'Amboise. Je dis au pif, hein, 150, c'est peut-être 180 ou 130, mais c'est dans ce petit village, tout près de Marie-Hélène. Nous repartirons le 14 ou le 15 pour rentrer le 15. Voilà, c'est un sujet de prière, parce que c'est pas pour la visite touristique que je le fais, que je le propose, c'est réellement pour développer l'unité en Christ entre nous. Et approfondir nos relations, surtout que pas mal de chrétiens ont besoin d'encouragement, d'exhortation, d'être écoutés, d'être éclairés. L'Église de Limoges a un pasteur, mais ce qu'il y a, c'est pas évident partout. Il n'y en a pas un partout. Et lorsque nous serons à la route, à la retraite et à la convention ABF, nous rencontrerons les chrétiens et les responsables de l'Église du Sel. Nous ferons d'une pierre deux coups et Aminata et Abdou, qui ne les connaissent pas, pourront faire connaissance réciproquement. Tout cela, c'est pour enrichir le réseau de relations d'Abdou et d'Aminata, qui ont vraiment besoin d'un grand support. Et leur fils qui termine l'institut au mois d'octobre, Zachary, aura besoin aussi d'un support. Il a de beaux projets à Niamey, à côté de ses parents, ou en parallèle à ses parents, dans l'unité de Dieu. Voilà les projets. Les projets sont dans la main de Dieu, nous ne les réalisons pas s'il ne le veut pas. Et s'il le veut, nous les réaliserons. Donc pour Angers, je ne sais pas encore, il faut que je m'interroge là-dessus, je ne sais pas être partout, il y a beaucoup de boulot ici, comme partout, pour les chrétiens qui veulent s'engager. Aujourd'hui, c'est la prédication, nous sommes le 24 juin, c'est la prédication numéro 76 pour les Belges. J'ai revu mes chiffres parce que je m'étais trompé l'autre jour. 76 aujourd'hui, c'est la prédication 76 de l'année 2022, qui est ensuite mis par Jean-Christophe Nolot sur le site de l'Église, quand il a le temps. Bon, nous allons avoir une connexion Wi-Fi dans la salle de culte, et donc pratiquement les prédications du dimanche seront aussi enregistrées. Évidemment à votre portée et d'ici peu. Bon, j'attends d'avoir un tout petit peu d'argent pour faire cet achat de quelques boîtiers Wi-Fi en plus. La maison est grande. Nous en avons besoin pour les cours. Je vous dis que, par exemple, la salle du culte toute la semaine, c'est... La connexion Wi-Fi parfois fera défaut aujourd'hui, je vois que ça commence déjà. Prions pour que ça marche. La salle de culte sert en semaine. Elle a commencé avec 10, 14. Voilà. La salle de culte sert maintenant à une bonne vingtaine de Ukrainiens. On en arrive, c'est Noémie qui assume tout cela. Le témoignage de Noémie est très, très performant. Elle n'est pas là, je peux le dire. Elle est très engagée pour le Seigneur. Elle travaille ardemment pour le progrès de ces Ukrainiens et ils voient l'amour de Christ à travers elle. Bon, mais la salle va devenir trop courte. Donc, prions le ciel que Dieu puisse achever de rénover la toiture et qu'on fasse une grande salle de 100 mètres carrés. Parce que si ça continue, on va avoir une foule bientôt. Prions aussi le dimanche au culte, il y a « Et ce beau nom qui nous protège ». J'étais en train de chanter un chant pour que Satan ne nous empêche pas de communiquer. Chers amis, le culte, il y a des nouvelles personnes. Dans les contacts, pour le moment, en évangélisation, il y a des gens extrêmement sérieux qui étudient la Bible sérieusement. C'est un beau cadeau, c'est une forme de renouveau, je le dis franchement, une forme de renouveau que je ne bénéficierai pas directement, mais si ces personnes viennent à l'Église, elles vont apporter du sang neuf, ce sera vraiment des gens engagés. Je ferai mon travail pour les instruire, les former, Dieu fera tout le reste dans sa grâce. Il a déjà fait avant, je ne fais que suivre sa grâce. Pour ce qui est du Pakistan, Saïd a eu un accident en moto, il est lourdement abîmé et il a du mal de s'en remettre. Mais c'est un gaillard costaud, et d'autre part sa moto est fichue, complètement fichue. Alors il ne peut plus aller chercher la nourriture des enfants pour l'école, ils sont 35 enfants. C'est les trois jeunes institutrices qui s'occupent des enfants qui courent. Je ne sais pas comment elles font, mais il est, lui on peut dire, platement, il est flagada. Il va falloir une bonne semaine pour qu'il se remette, s'il n'a pas de fracture cachée. Priez pour Saïd, priez pour cette école, pour les trois institutrices. Et c'est un réel progrès dans le Seigneur qui se passe là-bas. La maman de Saïd, qui est une personne déjà âgée, fait tous les repas. Elle assume les repas pour 135 enfants, vous imaginez? Avec joie, une sérieuse, profonde, immense joie. J'ai vu les photos, je vois les messages de son fils. C'est une vraie bénédiction quand on a une maman comme ça, qui aide son fils pasteur et toute cette école. Voilà, j'en viens à l'enseignement que j'avais commencé. Il est temps d'aimer la lumière vraie, la vraie lumière, celle de Christ, dans notre société, dans nos églises, dans nos familles, dans notre cœur. J'ai posé plusieurs questions, mais ces questions, n'est-ce pas, je ne peux pas les répéter. La première, c'était: l'amour de la vérité est-il le moteur, la soif de votre esprit, de vos pensées, de votre vouloir? Votre esprit, dit-il, au plus profond de vous-même, à votre âme, au fort intérieur, je choisis de chercher Dieu, même si tout le monde est contre, même si je souffre, même si j'ai des ennuis. C'est la base du vrai engagement en Christ. La deuxième question, Dieu a-t-il fondé en vous sa gloire pour confondre son ennemi, votre péché, mon péché? Dieu a-t-il fondé en vous, en moi, sa gloire pour confondre son ennemi, mon péché, votre péché? C'est Dieu qui peut permettre le combat victorieux contre le péché. En moi, en vous. Moi, je ne peux pas combattre mon péché. C'est incroyable. Il gigote. Comme disait Luther, on a écrasé la tête à la croix, mais il gigote toujours, le serpent, n'est-ce pas? Donc, il y a le péché et il y a Satan, évidemment, qui met de l'huile sur le feu de temps en temps. J'ai lu des textes là-dessus. J'ai lu. Je ne peux pas reprendre tout ça. La troisième question est celle-ci. Dieu est-il victoire en vous, en moi, contre les oppresseurs de votre âme, de mon âme? Dieu est-il victoire en vous contre les oppresseurs de votre âme, de mon âme? Alors, lisons des textes. Psaume 9, versets 4 et 5. Psaume 9, versets 4 et 5. La parole de Dieu est formidable, les amis. Elle donne une grande richesse à nos âmes pour cette victoire. Psaume 9, versets 4 et 5. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Imaginez, si vous dites ça dans la prière tous les jours, à notre Dieu et notre Père des cieux. Psaume 9, versets 4 et 5. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. C'est formidable, et prenons 2e à Timothée, chapitre 4, verset 8. 2e à Timothée, chapitre 4, verset 8. Deuxième à Timothée, chapitre 4, verset 8. La couronne désormais, au verset 7, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Imaginez ce que ça veut dire dans une période de persécution. Et Paul en a vu toutes les couleurs, peut-être vous aussi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, sa venue. OK? Vous voyez à quel point Paul souligne la victoire de Dieu, le juste juge, dans sa vie. Il connaît bien Dieu, il est juste, fidèle et bon, et Dieu le connaît bien. Et il a confiance dans cette relation. Donc au chapitre, au psaume 9, 4 et 5, il était clairement dit ceci: « Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Voilà ce que David disait. Ma question était celle-ci, n'est-ce pas? Je reste sur cette question-ci tout un temps. Dieu est-il victoire en vous, en moi, contre les oppresseurs de mon âme, de votre âme? N'oubliez jamais la question précédente. Dieu a-t-il fondé en vous, en moi, sa gloire pour confondre son ennemi? Mon péché, votre péché. Il ne faut pas toujours voir les ennemis autre part. Le premier ennemi est mon péché. Et si j'écoute trop mon péché, j'écoute mon ennemi. Et l'ennemi de Dieu. Donc, la troisième question, Dieu est-il victoire en vous contre les oppresseurs de votre âme? C'est peut-être un petit peu ce qui est à l'extérieur de votre âme et qui vient assaillir votre situation, votre affection, votre sentiment, votre corps, votre santé, peut-être votre sécurité, tout court. Dans certains pays, ça ne rigole pas. Alors, psaume 11, verset 1. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Donc il y a des gens qui ne souhaitent qu'une chose, notre débandade, notre fuite, notre démission. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Nous sommes appelés à résister, comme Marie Durand dans la tour de Constance. Elle est restée 39 ans en prison et sur la margelle du puits, elle avait gravé « résister ». Et toutes les femmes qui étaient avec elle un jour ont été relâchées. Résister en Christ, évidemment, pas sur base de notre orgueil ou de notre volontarisme. Résister par la force et la puissance du Saint-Esprit, par l'illumination du cœur, par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Psaume 10, verset 14. Tu regardes, verset 13, pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Le méchant, c'est comme ça, il est audacieux envers Dieu. Alors, verset 14, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance que j'ai. Pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. À qui? À ceux qui aiment Dieu. Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi aux véritables enfants de Dieu. Alors, ce sont des versets extrêmement importants, tout ça, parce que ça nous montre la réalité d'un combat extrêmement dur dans la vie de la foi. C'était le psaume 10, versets 14 à 18. Maintenant, prenons le psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ça arrive, même quand on a la foi, ça arrive, on a l'impression d'être tout seul, d'être lâché, et que Dieu ne voit pas, n'écoute pas, n'entend pas. C'est un tort, il ne faut jamais penser ça, mais ça arrive. Nous sommes tellement faibles et humains. Et jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Bonjour, Messaout. Alors, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », que mes adversaires ne se réjouissent pas s'ils me voient chanceler. Chanceler, ce n'est pas tomber. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Le psaume 13 est très riche pour vivre parfois de grandes épreuves. Alors, nous allons aller dans d'autres psaumes encore, hein, bien sûr. Le psaume 23, verset 4. Le psaume 23, verset 4. C'est le psaume 23 du bon berger. L'Éternel est mon berger. Et au verset 4, il dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le monde d'aujourd'hui, hein. C'est depuis qu'il y a les guerres, les meurtres, les assassinats, ça a commencé avec Caïn qui tue Abel, hein. Quand je marche en vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton sert à marcher. C'est un berger. Il marche pour appuyer sa marche, pour arriver à se reposer un petit peu, entraîner sa marche, quand tout le troupeau est derrière lui. Parfois, il y a de longs kilomètres pour trouver une vallée, un vert pâturage, de l'eau vive. Mais ce qu'il y a, la houlette, c'est un bâton différent, qui est courbé au bout, et il sert à quoi? Bien, quand un mouton est tombé dans un trou, tombé dans une gorge d'un ravin, le berger peut l'accrocher avec sa houlette et le retirer. La houlette sert à ramener la brebis qui est blessée, qui est tombée, qui est inaccessible à portée de main. Avec la main, on n'y arrive pas. Donc, le Seigneur peut toujours nous rattraper, nous aider dans cette vallée de l'ombre et de la mort que nous vivons sur terre. Alors, allons un peu plus loin. Jérémie 31, verset 25. Jérémie 31, verset 25. Je rafraîchirai l'âme altérée, c'est Dieu qui le dit. Je rassasirai toute âme languissante. Dieu dit ça. Alors, Jérémie, tout d'un coup, puisque Dieu lui adresse ce message par le Saint-Esprit, là-dessus, Jérémie dit, là-dessus, je me suis réveillé, j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Chers amis, vous voyez qu'à ce point-là, dans Jérémie 31, versets 25 et 26, c'est magnifique de voir ça. Dans une vie de foi en Jésus-Christ, il est clair que nous pouvons être réveillés par le Seigneur durant le sommeil. Pourquoi? Pour regarder l'âme rafraîchie par Dieu, la présence de Dieu qui me rafraîchit. Et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Il n'y a pas de bourbier pour l'âme du vrai chrétien. Il n'y a pas de bourbier dans lequel l'âme peut rester. Le berger vient avec sa houlette pour rechercher. Il rafraîchit même le sommeil. Il rafraîchit. Il parle par des songes, par des paroles dans la Bible, par le Saint-Esprit. Ok? C'est pour ça que la question que je vous ai posée, la troisième question, Dieu est-il victoire en vous contre les oppresseurs de votre âme? Oui, il est victoire. Saisissez-vous de la victoire de Dieu. Nous, on n'a pas de victoire. On se casse vite la pipe. Alors, prenons Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Eh oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien, c'est-à-dire vous n'êtes pas en faillite. Vous n'êtes pas déconfit devant les épreuves. Vous réussissez. Et vous savez pourquoi? Parce que l'épreuve a engendré en vous un don du Saint-Esprit qui est la patience. Et la patience accomplit parfaitement son œuvre en nous, afin que nous soyons parfaits et accomplis c'est-à-dire ressemblant à Christ, qui a été extrêmement patient sur cette terre et qui l'est toujours. Alors, dans Jacques, toujours au chapitre 5, verset 1. Et vous maintenant, riches, verset 1 à 13, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous imaginez ce que Jacques, le frère de Jésus, est en train d'enseigner à des chrétiens? Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Alors, chers amis, il peut exister. Bon, nous n'avons pas réellement ce type de population chez nous. Il peut exister que dans l'Église, il y ait des gens très riches. Très riches, qui donnent bien à la collecte, aux offrandes et dans les petites œuvres. Mais 95 ou 99% de leur fortune restent cachés, comme Ananias et Zéphira. Acte 5. C'est cela que l'Esprit Saint pointe le doigt par la bouche et la plume de l'apôtre Jacques. C'est toujours contemporain, c'est toujours actuel. Le riche est en danger, le pauvre à cause de son péché. Mais le riche, en plus du péché, il a toutes les occasions de pécher grâce à son argent. Et il a toutes les occasions de mentir par son avarice, son manque de miséricorde et de partage. Voilà, donc... On peut bien sûr, ma question était-il celle-ci, Dieu est-il victoire en vous contre les oppresseurs de votre âme? Il peut arriver que des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui se disent chrétiens soient de véritables oppresseurs de la condition humaine de beaucoup d'autres. Eh bien, il faut réclamer la victoire de Christ pour qu'ils voient clair. Et il faut les bénir, il faut prier pour eux, afin qu'ils abandonnent leurs faux trésors. Comme dit Timothée dans son épître, l'argent source de tous les maux. Et Jacques aussi. Donc c'était déjà une maladie qui s'introduisait dans les églises. C'est pas neuf. Premier épître de Pierre, chapitre 2. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, donc de Christ, hein. Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des offrandes spirituelles à Dieu. Nous sommes des offrandes spirituelles à Dieu. Si nous sommes réellement des offrandes spirituelles à Dieu, oui, nous acceptons les mauvais coups des oppresseurs. Et nous prions pour eux. Et nous ne perdons pas notre foi et notre confiance en Dieu. Mais nous ne perdons pas notre joie. Parce que notre joie, c'est le Seigneur Jésus. Quels que soient les oppresseurs qui agissent sur nous. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez que les hommes ont été des oppresseurs sur Jésus. Ils l'ont rejeté jusqu'à le crucifier. Jésus l'a dit. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. Donc, Dieu est-il victoire en vous, contre les oppresseurs de votre âme, oui, je vais dire que si votre foi grandit, s'affermit, comme dit l'apôtre Pierre, par l'épreuve, la patience accomplit une immense perfection en vous. La patience, don du Saint-Esprit, évidemment. Si c'était que psychologique, crac, boum, ça ne dure pas longtemps. Même avec la meilleure force de caractère, on ne va pas tenir. Dans la première à Timothée, chapitre 1, verset 6. Première à Timothée, chapitre 1, verset 6. Au verset 5, je vais commencer au verset 5. Le but de mes recommandations, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, donc attaché à Jésus-Christ, en pleine confiance, en pleine foi, d'une foi sincère. Une foi sincère, c'est metina litines cardias, ça veut dire une foi qui va au-delà des éléments psychologiques, des éléments culturels et familiaux qu'on a reçus. Elle se repose sur le fondement de Dieu vivant, de Jésus-Christ vivant. C'est ça, foi sincère. C'est pas seulement psychologique. C'est une foi qui va au-delà des éléments humains pour tenir. Elle s'appuie sur le rocher qui est Christ. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 6. Qu'est-ce qui se passe déjà dans une église du début, que Pierre a fondée? Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Donc vous voyez que les oppresseurs peuvent être de belles perruches, de beaux perroquets avec des versets bibliques. Les oppresseurs ne sont pas forcément des gens hostiles à l'évangile, en tout cas en apparence. Ils peuvent être des trompeurs, des gens dont le cœur n'est pas fondé sur Christ et ils s'égarent dans de vains discours. Ce sont des vains discoureurs, ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Faites attention à vous, mes amis, vous en connaissez, j'en suis certain. Quand je circule dans les assemblées, les membres, vous pouvez en connaître. Priez pour eux, mais faites gaffe, tenez-vous à distance et cherchez tout quiconque sert loyalement le Seigneur et attaché fidèlement au Seigneur. Attention, demandez le discernement au Seigneur pour tout cela. Le discernement peut vous donner beaucoup de protection, le discernement peut vous donner des moyens supplémentaires de prier pour ceux qui vous font du tort de manière insidieuse, sournoise, ou déclarée, ouverte. Oui, Dieu est victoire en moi, en vous, contre les oppresseurs de l'âme. Quatrième question. Dieu est-il victoire face à la détresse des malheureux? Il y en a tellement sur la terre. Il y en a tellement. C'est préoccupant. Ça augmente. Ça augmente, les amis, le nombre de malheureux sur la terre, y compris dans la population chrétienne. Alors, Dieu est-il victoire face à la détresse des malheureux? Psaume 10, versets 1 à 11. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Le méchant se glorifie de sa convoitise. Le ravisseur outrage, il méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Dieu ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes les pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et le misérable tombe dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Dieu cache sa face, Dieu ne regarde jamais. Alors voici ce que David dit. Lève-toi, ô Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour en prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités qui disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Je viens déjà de lire en partie, mais ce qu'il y a, c'est très important. Pourquoi? Parce que la position du croyant, c'est la confiance en Dieu, à partir du verset 12. Dans le psaume 10, verset 1 à 11, il fait le constat que le méchant se fiche de tout, se fiche de Dieu et fait un mal considérable aux croyants et aux autres. Et puis tout d'un coup, au verset 12, il proclame sa foi, la victoire de Dieu. Il proclame l'intervention souveraine de Dieu. Dans vos prières, chers amis, il ne faut pas être défaitiste. Il faut avoir une haute considération de la souveraineté de Dieu. Mon prochain message, sera sur la souveraineté de Dieu. Pas tout de suite. Probablement, nous sommes vendredi, probablement mercredi. Mais ce qu'il y a, il faut que j'achève ce sujet. Dieu est-il victoire face à la détresse des malheureux? Pensez à Matthieu 25, j'étais nu, affamé, prisonnier, j'étais étranger, mais quand avons-nous vu, Seigneur? Chaque fois que vous l'avez fait un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et qu'est-ce que dit Jésus? C'est que ceux qui ne l'ont pas fait sont rejetés pour l'éternité. Il y a un jugement de Dieu, il existe. Confions-nous dans la souveraineté de Dieu et dans sa justice. Les malheureux seront élevés. Ceux qui les oppriment seront abaissés. Psaume 12. Psaume 12, versets 2 à 7. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Tiens, on croirait que c'est aujourd'hui. Mais c'est pas vrai, c'est de toute époque. Le même sentiment vient, nous menace. Mais c'est pas réel. Il y a toujours eu des gens fidèles. Il y a toujours eu des gens pieux. Et il y aura toujours l'œuvre de Dieu sur terre, dans des âmes, dans des maisons, dans des cœurs, dans des volontés. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent entre les fils de l'homme. Donc, David souffre énormément. On se dit des faussetés les uns aux autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ah, la duplicité, c'est une ruine, n'est-ce pas? Priez, mes amis, que dans vos assemblées, dans vos relations, il n'y ait pas de duplicité. Pas des langues fourchues. Que l'Éternel, et pour vous-même aussi, pour moi-même, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Ce verset 6 est très important. Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Voilà, ça c'est le psaume 12, le verset 6 est essentiel. La souveraineté de Dieu et de sa justice, et de son jugement, et de la juste rétribution. Alors, psaume 18, oh, je ne peux pas tout lire, il est trop long, nous n'aurons pas fini tout le sujet. Alors, je vous lis quelques versets du psaume 18. Lisez-le complètement, ça vaut la peine. Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et pourquoi David dit cela? Parce que Saül le poursuivait avec 4000 hommes et lui, il était avec 300 ou 500 bonhommes, des bonhommes pas très brillants, pas de très bons combattants. Et l'autre, en face, Saül, le poursuivait partout. Ça a duré 3-4 ans, de manière féroce. Voici la prière de David. Dieu lui a assuré la victoire, parce qu'il a mis sa confiance dans l'Éternel. Je sais que parmi vous, certains ont vécu de grandes épreuves et ont fait cela. Et je sais que d'autres parmi vous qui écoutent ne sont pas encore passés par là. Vous devrez passer par là. Tout chrétien passe par ces moments-là. Rappelez-vous tous ces versets que j'ai lus. Ne cherchez pas à les éviter. Ils vous seront utiles au moment où vous ramasserez de sales coups. Si vous ne ramassez jamais de sales coups, jamais de grandes épreuves, c'est que le diable vous laisse tranquille. Si vous laissez tranquille, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes réellement un Christ? Posez-vous la question. Alors, psaume 21, verset 1. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. David donc se réjouit. Oui, oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur et te demandait la vie, tu la lui as donnée, une longue vie pour toujours à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Savez-vous que vous êtes roi en Christ? Vous ne le savez pas? Vous en doutez? Vous êtes droit? Vous êtes prêtre? Vous êtes prophète? Apocalypse, chapitre 5. Chapitre 5 d'Apocalypse, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. » Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Des rois. Hein? Et des sacrificateurs, des adorateurs, des intercesseurs. Le rôle sacerdotal de l'Église, de toute l'Église. Et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Voilà. Le croyez-vous? Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10. Et si vous allez au chapitre 21 et 22, vous verrez que le royaume est établi et que nous sommes appelés à régner avec Christ. Lisez Apocalypse, chapitre 7. Alors, nous allons aller plus loin. Nous allons aller dans le psaume 22. 22, verset 7. Ici, c'est un psaume extrêmement prophétique qui relate la situation de Christ qui va se produire 1000 ans après, à partir du mont des Oliviers, à partir de la croix. Psaume 22, verset 7. Moi, je suis comme un ver et non comme un homme. Je suis la honte des hommes, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera et te délivrera puisqu'il t'aime. Lisez ce psaume 22. Si Christ est passé par l'épreuve et qu'il dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, qu'il passera par les mêmes épreuves, évidemment, la foi chrétienne est nécessairement dans les épreuves et aussi dans les bons moments, mais pas toujours dans les pantoufles et les fauteuils de l'âme. Alors, allons plus loin, lisez tout le psaume 22, bien sûr, psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse, ben oui, me faire assassiner, tuer. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, au ciel, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne leur élève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oin. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Oh, les amis, le psaume 28, c'est considérable. Ça doit être le cri de notre âme dans beaucoup de situations. Et pour les chrétiens en pays de persécution, c'est le cri de leur cœur, de leur pensée, conduit par le Saint-Esprit. Alors, nous allons aller dans la première épître de Pierre, chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, donc par motif de foi, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oh, chers amis, le programme de la vie chrétienne, il est clair. C'est la joie en Christ, mais c'est aussi, comme il est mis dans plusieurs évangiles, je n'ai pas cherché le verset tout à l'heure, alors il faut porter sa croix. Quelle croix, les amis? La même croix que Jésus a portée, c'est-à-dire celle de l'opposition, de l'incompréhension, des ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis pour le vrai chrétien. C'est pour cela que tous les psaumes, c'est une œuvre formidable du Saint-Esprit, dans la vie de David, qui n'était pas plus parfait que nous, qui était fait des mêmes os, des mêmes chairs que nous. Mais David, le petit berger, quand il a grandi dans la foi et qu'il est devenu roi, à une époque de sa vie, il y avait 6000 chantres et musiciens, 6000 personnes qui chantaient avec des instruments et qui louaient la gloire de Dieu. Vous voyez la grandeur de l'âme de cet homme, de ce petit homme, qui n'était rien dans sa nation avant, la grandeur de la foi, de la reconnaissance. C'est pour ça que Paul dit, soyez reconnaissants, faites des actions de grâce en toutes circonstances. C'est la force, c'est la véritable force du croyant. Et ça, ça impressionne Satan, ça impressionne les ennemis de la foi. Ça fait partir au loin le lion rugissant, Satan. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Oh, je vais commencer au verset 12. Je pense souvent à plein de chrétiens dans d'autres pays, n'est-ce pas, qui sont sur mon cœur, jour et nuit. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Venant de l'Occident et allant pour la première fois, il y a de nombreuses années déjà au Bénin, quand j'ai vu la situation des chrétiens là-bas, des très grandes assemblées, de ces pauvres gens qui sont pieds nus, qui sont dans des conditions très difficiles, et qui venaient là, à l'assemblée, pour louer et chanter. Ils venaient déjà une heure avant le culte, ils étaient tous là en silence. Ils venaient peu à peu, par des petits chemins dans la nature, partout, dans la savane, de la brousse. Et puis quand le pasteur ou ses adjoints commençaient les chants, ils chantaient, ils se levaient, ils louaient le Seigneur. Et comme il y avait plusieurs ethnies, il y avait plusieurs langues, quand j'ai dû leur parler, je devais annoncer l'amour de Christ à ces personnes. Mes chers amis, je ne peux pas me moquer de ces frères et sœurs qui n'ont qu'un bout d'étoffe, de tissu sur leur dos et qui ont un immense trésor dans le cœur. Un immense trésor de foi plus grand que celui qui est en Europe. Mes amis, j'ai vu le corps de Christ souffrant, tel que Pierre le dit ici, dans 1er épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. Le corps de Christ souffrant aujourd'hui. Et il est à beaucoup de place sur la terre. Quelle gloire attend toutes ces personnes? Une immense gloire. La gloire d'avoir vécu dans la foi selon le chemin de Christ, comme il a vécu sur terre. Alors, ma quatrième question était donc celle-ci. Dieu est-il victoire face à la détresse des malheureux? Je dis oui, absolument. Absolument. Dieu voit tout, c'est tout. C'est pour cela que j'ai pensé que les prochaines prédications seraient sur la souveraineté de Dieu. Maintenant, il reste encore une question. Une question que je vous adresse. C'est la cinquième. Cinquième question. Que peut-il se passer si je me laisse aller à mon péché, si je décline ma foi, si je me laisse attirer par la boue du péché, alors que j'ai cru en Christ, alors que j'ai la foi, je sais qui est Christ. Que peut-il se passer pour moi si je me laisse aller dans mon péché qui sans cesse veut revenir? Nous descendons de qui? Abel a été tué. Un descendant de Caïn. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Ton péché couche sur le seuil de ta porte. Donc attention, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, c'est ton premier ennemi. Alors que peut-il se passer si je me laisse aller, si je décline tout intérêt pour Christ, si je décline tout intérêt pour l'appel de Dieu qui est toujours permanent en moi, si je décline tout intérêt pour la grâce qui m'a été accordée, le pardon? Il est clair que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, même si je suis infidèle. Paul l'a dit dans l'épître à Timothée. Je prendrai ce sujet, la fois prochaine, lundi. Il y a de nombreux passages et j'aurai une sixième question. Bien sûr, j'aurai deux questions. Que peut-il se passer si je me laisse aller, hein, si je décline une vie de faire de zèle, de foi fervente, de foi ferme et fidèle. Bon. La sixième question, où est le plaisir de mon Dieu? Où est le plaisir de mon Seigneur, mon Dieu? Où est le plaisir de mon Dieu? Je ne répondrai pas à cette question, juste un petit peu. Dans la noblesse de ma foi, dans ma fidélité, dans ma persévérance. Où est le plaisir de Dieu? Dans les paroles d'amour que je lui adresse, les paroles de louange que je lui dis. La confession de mes péchés aussi, honnête, sincère, tous les jours. Ma repentance, mais l'adoration, la considération de son amour infiniment grand, dans sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, comme dit Paul. Le plaisir de Dieu, c'est que je le connaisse. Il ne cherche que ça, comme un papa. C'est que l'enfant soit dans ses bras, sur ses genoux, et que l'enfant regarde son papa avec amour et connaît son papa. Le plaisir du papa, c'est que l'enfant le connaisse. De plus en plus. Soyez bénis. À lundi. Gloire à Dieu. Paix aux hommes de bonne volonté, comme ont dit les anges. J'espère que vous en êtes. Que la paix de Jésus soit sur vous tous. Amen.